en bleu clair ou en bleu clair gras peut être cliqué pour accéder aux références dans les écritures ou les écrits. George Fox était un ardent défenseur de la co-responsabilité des femmes dans l'Église. La position de l'égalité de la femme fut la cause de nombreuses défections au sein des rangs Quakers du XVIII siècle. Mais il est juste qu'une femme, Margaret Fox, se distingue pour défendre les droits de son sexe et son rôle dans l'Église de Dieu, une position qui est encore attaquée par ceux qui arrachent deux versets à leur contexte, face à des centaines d'autres dans le reste de la Bible. Vous qui arrivez sur cette page en croyant fermement que les femmes ne doivent pas parler dans l'Église, ne vous détournez pas sans lire toute cette section. Si vous la lisez équitablement, vous verrez que les instructions de Paul s'appliquaient à des femmes indisciplinées, pas encore sous aucun contrôle de l'Esprit de Dieu, et les très, très nombreux exemples scripturaires, cités ci-dessous, de femmes spirituellement mûres, contredisent totalement l'application de l'instruction de Paul aux femmes en général. Il vous faut résoudre cette apparente grande différence. Ainsi, l'instruction de Paul peut être comprise comme limitée aux femmes spirituellement immatures et indisciplinées astérisque encore sous la loi, et comme compatible avec le reste de la Bible, qui témoigne et loue de très, très nombreuses femmes spirituellement mûres, qui prophétisaient, prêchaient, enseignaient, reprenaient, exhortaient, jugeaient et instruisaient, et oui, même des hommes. Car personne, ni homme ni femme, n'était censé parler dans un véritable culte, à moins d'y être invité par l'Esprit de Dieu. Il n'y avait pas de parole venant de l'Esprit charnel, chaque mot venait de l'Esprit de Dieu, ils prophétisaient tous, hommes et femmes, selon l'impulsion et avec des paroles de l'Esprit de Dieu. Voir directive pour le culte pour des écritures qui soutiennent cette parole, prédication, chant ou prière uniquement guidée par l'Esprit. Astérisque Fox a déclaré à plusieurs reprises que Paul écrivait au sujet de femmes indisciplinées. Longtemps après avoir rédigé cette page web, en 2008, j'ai reçu ce message fort et ferme de la parole du Seigneur au-dedans, « La règle a été proclamée contre les femmes indisciplinées, ne pense pas que tu vaux mieux. » Je souligne qu'il s'agissait de l'une des déclarations les plus fortes et les plus fermes que j'ai jamais entendues de la part du Seigneur, c'était un ordre clair, sans condition ni réserve. J'avais depuis longtemps considéré ma femme comme mon égale sur le plan spirituel, il semble donc que cela vise les femmes que je rencontrerai à l'avenir, que le Seigneur aura transformées d'indisciplinées en gouvernées par l'Esprit de Dieu, car tous ceux qui sont conduits par l'obéissance aux ordres entendus par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu, hommes ou femmes. Dans 1 Cor 11:5, Paul dit « Mais toute femme qui prie ou prophétise, prophétiser ce n'est pas seulement prédire l'avenir, c'est parler pour l'édification, l'exhortation et la consolation. » 1 Cor 14:3. Ici, Paul montre que les femmes qui prophétisent, c'est-à-dire qui parlent à partir des incitations et des enseignements du Saint-Esprit, parlent dans l'Église. Prophétiser, c'est parler en présence d'auditeurs intéressés par ce qui est dit, des femmes parlant dans l'Église, mais sous le contrôle de l'Esprit. Cela prouve que la restriction de Paul, que vos femmes se taisent dans les assemblées, car il ne leur est pas permis de parler, mais qu'elles soient soumises, comme le dit aussi la loi. Et si elles veulent s'instruire sur quelque chose, qu'elles interrogent leur mari à la maison, car il est honteux pour une femme de parler dans l'assemblée. 1 Cor 14:34-35 ne s'appliquait qu'aux femmes nouvellement initiées dans l'Église, encore sous la loi, dont la langue n'était pas encore sous le contrôle de l'Esprit de Dieu. Paul nous dit en outre que, tant qu'un homme ou une femme ne suit pas les commandements de l'Esprit, tous deux restent soumis à la loi, mais si vous êtes conduits par l'Esprit, vous n'êtes pas sous la loi. Galates 5:18. Les actes montrent encore que les femmes devaient prophétiser, parler pour l'édification, l'exhortation et la consolation. 1 Cor 14:3. Et il arrivera dans les derniers jours, dit Dieu, que je répandrai de mon esprit sur toute chair, vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions, et vos vieillards auront des songes. La plus longue lettre de toute la collection de George Fox, l'Épître N320, défend le rôle des femmes dans l'Église de Dieu, en citant toutes les femmes dont Dieu s'est servi dans la Bible. George Fox présente aussi une excellente défense de l'égalité de la femme en Christ sur cette page, à la conclusion des lettres de Margaret. Et enfin, Margaret a une lettre évangélique sur ce site, qui devrait humilier quiconque pense que les femmes ne devraient pas enseigner et prêcher. Cliquez pour voir. De la parole du Seigneur au-dedans, les femmes sont largement discriminées. Dans mon Église, il n'y en a qu'un, hommes et femmes sont un en Christ. Paul parlait de femmes indisciplinées nouvellement initiées. Vous les verrez, exercer leur ministère avec puissance et en mon nom. La main est sur la nuque pour les conduire à l'humilité et les maintenir humbles. Je suis d'accord avec toi, l'humble doit être vu et non entendu, et ceci n'est pas proposé à une personne qui ne peut contrôler sa langue et dont le moi n'est pas mort. Les messages ci-dessus apparaissent aussi dans l'encadré « Message du Seigneur » en haut à droite de la page d'accueil. Je trouve la lettre de Margaret Fox ci-dessous très belle, plus que suffisante et entièrement appropriée, une déclaration ferme et humble du droit de la femme à parler et à enseigner, Christ étant le même pour le juif ou le grec, l'homme ou la femme. Si vous la lisez équitablement, l'esprit ouvert, elle touchera votre âme d'un amour et d'un respect pour les femmes en général, et pour celles qui sont en Christ en particulier. Femmes justifiées, démontrées et autorisées par les Écritures, toutes celles qui parlent par l'Esprit et la puissance du Seigneur Jésus. Et comment les femmes furent les premières à prêcher la nouvelle de la résurrection de Jésus, et furent envoyées par l'ordre même de Christ, avant qu'il ne monte vers le Père. Jean 20, 17. Au moment de ses écrits, Margaret conservait le nom de son premier mari décédé, le juge Fell. 3 ans après avoir écrit les lettres ci-dessous, soit 11 ans après la mort de son premier mari, Margaret Fell épousa George Fox et devint Margaret Fox. Leur mariage fut ordonné par le Seigneur Jésus à George Fox. Elle s'était déjà imposée comme la mère de l'Église, tandis que Fox était reconnu comme le père et le fondateur de la société. Elle passa au total 10 années en prison, à la suite de plusieurs emprisonnements, pour avoir tenu des réunions de culte chez elle et pour avoir refusé, lors des procès, de prêter serment. Par Margaret Fell, puisqu'il y a eu une objection dans l'esprit de beaucoup, et que le clergé, ou des ministres et d'autres, a plusieurs fois objecté contre le fait que les femmes parlent dans l'Église, on peut par conséquent en conclure qu'elles sont condamnées pour s'être mêlées des choses de Dieu. Le fondement de cette objection est tiré des paroles de l'apôtre, qu'il écrivit dans sa première épître aux Corinthiens, 1 Cor 14, 34-5, et aussi de ce qu'il écrivit à Timothée, 1 Tim 2, 11-12. Mais jusqu'à quel point il dénature l'intention de l'apôtre dans ces passages, nous le montrerons clairement lorsque nous y viendrons, dans leur suite et leur ordre. Mais d'abord, laissez-moi exposer comment Dieu lui-même a manifesté sa volonté et sa pensée concernant les femmes et envers les femmes. Et d'abord, lorsque Dieu créa l'homme à l'image de Dieu il les créa, mâle et femelle il les créa. Et Dieu les bénit, et Dieu leur dit, « Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et soumettez-la. » Et Dieu dit, « Voici, je vous ai donné toute plante portant semence qui est à la surface de toute la terre, et tout arbre qui a en lui du fruit d'arbre portant semence, Eugène 1, 27-29. » Ici, Dieu les unit ensemble à son image, et ne fait pas ces distinctions et différences que les hommes font, car bien qu'il soit faible, lui est fort, et comme il dit à l'apôtre, sa grâce suffit, et sa force se manifeste dans la faiblesse, 2 Cor 12. Ainsi le Seigneur a-t-il choisi les choses folles du monde pour confondre les sages, et Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre celles qui sont fortes, et les choses viles du monde et celles qui sont méprisées, oui, même celles qui ne sont rien, pour réduire à rien celles qui sont, 1 Cor 1, 27-8. Dieu n'a mis aucune différence entre le mâle et la femelle comme les hommes voudraient en mettre. Il est vrai que le serpent, qui était plus rusé que toute autre bête des champs, vint vers la femme avec ses tentations et avec un mensonge, sa ruse discernant qu'elle était le vase plus faible ou plus encline à l'écouter lorsqu'il dit « Si tu manges, tes yeux s'ouvriront » et la femme vit que l'arbre était bon à manger et qu'il était agréable aux yeux et un arbre désirable pour rendre sage. Là, la tentation entra en elle et elle prit de son fruit et mangea et elle en donna aussi à son mari et il mangea. Ainsi tous deux furent tentés dans la transgression et la désobéissance et Dieu dit donc à Adam qui se cachait lorsqu'il entendit sa voix « As-tu mangé de l'arbre dont je t'avais commandé de ne pas manger ?» Et Adam dit, « La femme que tu as mise auprès de moi m'a donné du fruit de l'arbre, et j'en ai mangé. » Et l'Éternel Dieu dit à la femme, « Qu'as-tu fait là ?» Et la femme dit, « Le serpent m'a trompée, et j'ai mangé. » Ici, la femme dit la vérité au Seigneur. Voyez ce que le Seigneur dit, après avoir prononcé la sentence sur le serpent, « Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta descendance et sa descendance, elle t'écrasera la tête, et tu lui blesseras le talon. » Gênesis 3, 15. Que cette parole du Seigneur, qui était dès le commencement, ferme la bouche de tous ceux qui s'opposent à ce que les femmes parlent par la puissance du Seigneur, car il a mis inimitié entre la femme et le serpent, et si la descendance de la femme ne parle pas, c'est la descendance du serpent qui parle, car Dieu a mis inimitié entre les deux descendances. Et il est manifeste que ceux qui parlent contre la femme et contre la parole de sa descendance parlent par l'envie de la descendance de l'ancien serpent. Et Dieu a accompli sa parole et sa promesse. Lorsque la plénitude du temps fut venue, Dieu envoya son Fils, né d'une femme, né sous la loi, afin que nous recevions l'adoption, Galates 4, 4-5. De plus, le Seigneur prend plaisir, lorsqu'il mentionne son Église à l'appeler du nom de femme, par ses prophètes, disant « L'Éternel t'a appelée comme une femme délaissée et affligée d'esprit, comme une épouse de la jeunesse quand elle fut répudiée, dit ton Dieu. » Isaïe 54, 6. « Encore, jusqu'à quand iras-tu errant, fille rebelle? Car l'Éternel a créé une chose nouvelle sur la terre, la femme entourera l'homme, Jer 31, 22. Et David, lorsqu'il parlait de Christ et de son Église, dit « La fille du roi est toute glorieuse au-dedans, son vêtement est d'or ouvragé, elle sera conduite au roi, on les amènera avec joie et allégresse, elles entreront dans le palais du roi », Psa 45:13-15. Et aussi le roi Salomon, dans son cantique où il parle de Christ et de son Église, où elle se plaint et appelle Christ, dit « Si tu ne le sais pas, ô la plus belle des femmes, va sur les traces du troupeau », Cant 1:8-5-9. Et Jean, lorsqu'il vit la merveille qui était dans le ciel, vit une femme revêtue du soleil, la lune sous ses pieds, et sur sa tête une couronne de 12 étoiles, et il parut une autre merveille dans le ciel, un grand dragon rouge se tenait prêt à dévorer son enfant. Rêve 12:1-3. Ici apparaît l'envie du dragon. Ainsi, cela peut prouver que l'Église de Christ est représentée comme une femme, et ceux qui parlent contre la parole de cette femme parlent contre l'Église de Christ, et contre la descendance de la femme, laquelle descendant est Christ. C'est-à-dire que ceux qui parlent contre la puissance du Seigneur et contre l'Esprit du Seigneur qui parle en une femme, simplement en raison de son sexe ou parce qu'elle est une femme, sans tenir compte de la semence, de l'Esprit et de la puissance qui parle en elle, parlent contre Christ et son Église, et sont de la descendance. Comme Dieu le Père n'a fait aucune différence dans la première création, ni depuis entre le mâle et la femelle, mais dans sa miséricorde et sa bonté a toujours eu égard aux faibles, ainsi aussi son Fils Christ Jésus confirme la même chose. Lorsque les pharisiens vinrent à lui et lui demandèrent s'il était permis à un homme de renvoyer sa femme, il leur répondit, « N'avez-vous pas lu que celui qui les fit au commencement les fit mâle et femelle, et dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, et s'attachera à sa femme et les deux. Ainsi ils ne sont plus deux, mais une seule chair. Que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a uni. » Matthieu 19:4-6. Encore, Christ Jésus, lorsqu'il vint dans la ville de Samarie, là où était le puits de Jacob, là où était la femme de Samarie, vous pouvez le lire dans Jean 4. Comme il lui plut de lui prêcher l'Évangile éternel, et lorsque la femme lui dit « Je sais que le Messie doit venir, celui qu'on appelle Christ, quand il viendra, il nous annoncera toutes choses. » Et Jésus lui dit « Moi qui te parle, je le suis. » Il dit aussi à Marthe, lorsqu'elle dit qu'elle savait que son frère ressusciterait au dernier jour, Jésus lui dit « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi quand même il serait mort vivra, et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. » Crois-tu cela? Et elle lui dit, « Oui Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Messie, le Fils de Dieu. » Et ici, elle manifesta sa foi vraie et salvatrice que peu, en ce temps-là, avait en lui. Jean 11:24-7. De même cette femme, qui vint vers Jésus avec un vase d'albâtre contenant un parfum très précieux, et le répandit sur sa tête pendant qu'il était à table, il est manifeste que cette femme connaissait davantage la puissance secrète et la sagesse de Dieu que ses disciples, qui furent remplis d'indignation contre elle. Et c'est pourquoi Jésus dit, « Pourquoi faites-vous de la peine à cette femme? Car elle a fait une belle chose envers moi. En vérité, je vous le dis, partout où la bonne nouvelle sera prêchée dans le monde entier, on racontera aussi en mémoire d'elle ce qu'elle a fait. » Matthieu 26:6-13 et Marc 14:3-9. Luc dit encore qu'une femme de la ville, qui était une pécheresse, se tint derrière lui, à ses Jésus-pieds, en pleurant, et se mit à laver ses pieds de ses larmes, à les essuyer avec les cheveux de sa tête, à baiser ses pieds et à les oindre de son parfum. Et lorsque Jésus vit le cœur du pharisien qu'il avait invité chez lui, il prit occasion de parler à Simon, comme vous pouvez le lire dans Luc 7, puis il se tourna vers la femme et dit, « Vois-tu cette femme. Je suis entré dans ta maison, et tu ne m'as pas donné d'eau pour mes pieds, mais elle a lavé mes pieds avec ses larmes et les a essuyés avec les cheveux de sa tête. » Tu ne m'as pas donné de baiser, mais elle, depuis que je suis entrée, n'a cessé de baiser mes pieds. Tu n'as pas oint ma tête d'huile, mais elle a oint mes pieds de parfum. C'est pourquoi je te le dis, ses nombreux péchés sont pardonnés car elle a beaucoup aimé, mais celui à qui l'on pardonne peu aime peu. Luc 7:44-47. Il y avait aussi beaucoup de femmes qui suivaient Jésus depuis la Galilée, le servant, et qui se tenaient à distance lorsqu'il fut crucifié, Matthieu 27:55-56, Marc 15:40-41, oui même les femmes de Jérusalem pleuraient sur lui, à tel point qu'il leur dit, « Filles de Jérusalem, ne pleurez pas sur moi, pleurez plutôt sur vous-même et sur vos enfants. » Luc 23:28. Et certaines femmes qui avaient été guéries d'esprits mauvais et de maladies, Marie-Madeleine, Jeanne, femme de Chusa, intendant d'Hérode, et beaucoup d'autres qui le servaient de leur bien. Luc 8:2-3. Ainsi nous voyons que Jésus reconnaissait l'amour et la grâce qui apparaissaient chez les femmes, et ne les méprisait pas. Et d'après ce qui est rapporté dans les Écritures, il reçut autant d'amour, de bonté, de compassion et de tendresse de la part des femmes que de n'importe qui d'autre, tant durant sa vie qu'après qu'on eut exercé sur lui leur cruauté, car Marie-Madeleine et Marie, mère de Jacques, virent où il fut mis. Or, quand le sabbat fut passé, Marie-Madeleine, Marie, mère de Jacques et Salomé achetèrent des aromates, afin de venir l'embaumer. Et de grand matin, le premier jour de la semaine, elles vinrent au tombeau au lever du soleil, et elles se disaient entre elles, « Qui nous roulera la pierre loin de la porte du tombeau ?» mais en regardant, elles virent que la pierre, qui était très grande, avait été roulée. Marc 16 1-4 Luc 24 1-2 Et elles descendirent dans le sépulcre, et comme Matthieu l'a dit, l'ange roula la pierre et dit aux femmes, « Ne craignez pas, je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié. Il n'est point ici, car il est ressuscité. » Matt 28 1-6 Or Luc dit ainsi que deux hommes se tinrent près d'elles en vêtements resplendissants. Comme elles étaient effrayées et baissaient le visage vers la terre, les hommes leur dirent, « Il n'est pas ici, souvenez-vous de ce qu'il vous a dit lorsqu'il était encore en Galilée. Il faut que le Fils de l'homme soit livré entre les mains des hommes pécheurs, qu'il soit crucifié, et qu'il ressuscite le troisième jour. » Et elles se souvinrent de ces paroles, et de retour du tombeau, elles rapportèrent toutes ces choses aux onze et à tous les autres. Luc 24 1-10 C'était Marie-Madeleine, Jeanne, Marie, mère de Jacques, et les autres femmes qui étaient avec elles, qui dirent ces choses aux apôtres, et leurs paroles leur semblèrent des fables, et ils ne les crurent pas. Notez cela, vous qui méprisez la faiblesse des femmes, et vous vous croyez si sages. Mais Christ Jésus n'agit pas ainsi, car il se sert des faibles. Car lorsqu'il rencontra les femmes après sa résurrection, il leur dit, « Je vous salue. » Et elles s'approchèrent, le saisirent par les pieds et l'adorèrent. Alors Jésus leur dit, « Ne craignez pas, allez dire à mes frères qu'ils se rendent en Galilée, c'est là qu'ils me verront. » Matt 28 9-10 Marc 16-9 Et j'en dis que, lorsque Marie pleurait au sépulcre, Jésus lui dit, « Femme, pourquoi pleures-tu, qui cherches-tu ? » Et elle, supposant que c'était le jardinier, lui dit, « Seigneur, si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis et je le prendrai. » Jésus lui dit, « Marie. » Alors elle se retourna et lui dit, « Rabbi, c'est-à-dire maître, Jésus lui dit alors, « Ne me retiens pas, car je ne suis pas encore montée vers mon Père. Mais va vers mes frères et dis-leur, « Je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. » Jean 20, 16-17 Notez cela, vous qui méprisez et combattez le message du Seigneur Dieu qu'il envoie par des femmes. Qu'en serait-il advenu de la rédemption de tout le corps du genre humain, si l'on n'avait pas eu raison de croire le message que le Seigneur Jésus envoya par ses femmes, au sujet de sa résurrection et la concernant? Et si ces femmes n'avaient pas ainsi, dans leur tendresse et dans leur entraille d'amour, elles qui avaient reçu de lui miséricorde, grâce, pardon des péchés, vertu et guérison, dont beaucoup d'hommes avaient reçu de même, si leur cœur n'avait pas été si uni et attaché à lui par l'amour qu'elles ne pouvaient s'éloigner comme les hommes le firent, mais restèrent à observer, à attendre et à pleurer auprès du sépulcre jusqu'au temps de sa résurrection, et furent ainsi prêts à porter son message, comme cela est manifeste, autrement comment ses disciples l'auraient-ils su. Ô béni et glorifié soit le Seigneur glorieux, car tout le corps du genre humain peut dire cela, bien que la sagesse de l'homme, qui n'a jamais connu Dieu, soit toujours prête à se récrier contre les faibles, mais la folie de Dieu est plus sage que les hommes, et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. 1 Cor 1:25 Et dans Actes 18, 24-26, vous pouvez lire comment Aquila et Priscille prirent Apollo avec eux et lui exposèrent plus exactement la voix de Dieu. C'était un homme éloquent et puissant dans les Écritures. Pourtant, nous ne lisons pas qu'il méprisa ce que Priscille dit parce qu'elle était une femme, comme beaucoup le font aujourd'hui. Et maintenant, aux paroles de l'apôtre, qui sont le fondement de la grande objection contre la parole des femmes. Et d'abord, 1 Cor 14. Que le lecteur parcourt sérieusement ce chapitre et voit la fin et l'intention de l'apôtre en prononçant ces paroles. Car l'apôtre y exhorte les Corinthiens à l'amour, à désirer les dons spirituels, à ne pas parler en langue inconnue, et à ne pas être des enfants en intelligence, tout en étant des enfants en malice, mais pour l'intelligence à être des hommes. Et il dit que les esprits des prophètes doivent être soumis aux prophètes, car Dieu n'est pas un Dieu de confusion mais de paix. Et alors il dit, que vos femmes se taisent dans les assemblées, où il apparaît clairement que les femmes, aussi bien que certains autres qui étaient parmi eux, étaient dans la confusion. Car il dit, que faire donc, frères ? Lorsque vous vous assemblez, chacun de vous peut avoir un psaume, une instruction, une langue, une révélation ou une interprétation. Que tout se fasse pour l'édification. Ici, il n'y a pas d'édification, mais de la confusion à parler tous ensemble. C'est pourquoi il dit, si quelqu'un parle en une langue langage, que ce soit deux ou tout au plus trois, et chacun à son tour, et que quelqu'un interprète. Mais s'il n'y a pas d'interprète, qu'il se taise dans l'assemblée. Ici l'homme est commandé de se taire, tout autant que la femme, lorsqu'il y a confusion et désordre. Mais l'apôtre dit encore, elles sont commandées d'être soumises, comme le dit aussi la loi. Et si elles veulent apprendre quelque chose, qu'elles interrogent leur mari à la maison, car il est honteux pour les femmes de parler dans l'assemblée. Ici l'apôtre manifeste clairement son intention, car il parle de femmes qui étaient sous la loi astérisque et dans cette transgression comme Ève, et de celles qui avaient à apprendre, et non à parler en public, mais qui devaient d'abord interroger leur mari à la maison, et il était honteux que de telles femmes parlent en l'Église. Et il apparaît clairement que de telles femmes parlaient parmi les Corinthiens, puisque l'apôtre les exhorte à quitter la malice, la rivalité et la confusion, et il leur prêche la loi, et dit, « Il est écrit dans la loi, c'est par des hommes d'une autre langue et par des lèvres étrangères que je parlerai à ce peuple. 14-21 astérisque ici, des femmes grecques croyantes dans l'assemblée chrétienne de Corinthe étaient encore sous la loi. Alors que le sacrifice de sang du Christ rendait la loi mosaïque caduque, la loi intérieure dans le cœur de tout homme est toujours vivante, jamais abrogée, et cette loi intérieure inclut le noyau moral de la loi mosaïque. Et cette loi intérieure, selon laquelle tous les hommes seront jugés, Romains 2, 14, 16, doit être obéie. Elle nous fait nous sentir mal lorsque nous mentons, ou volons, ou manquons de respect à nos parents. Les lois morales de la loi intérieure dépassent les lois morales mosaïques externes, car comme Jésus l'a dit, il est venu accomplir la loi, puis il nous a dit comment elle devait être renforcée, ce que la loi intérieure reflète. Cette loi intérieure renforcée peut être comprise comme ayant été violée chaque fois que vous manifestez un fruit de la chair, lesquels incluent immoralité sexuelle, impureté, convoitise, grossièreté, propos insensés, plaisanterie, obscénité, adultère, absence de retenue, sorcellerie, haine, crêle, jalousie, fureur, ambition, division, envie, meurtre, ivrognerie, débauche, fête, mauvaise pensée, fornication, méchanceté, tromperie, blasphème, orgueil, colère, vantardise, flatterie, immodestie, immoralité et folie. Chacun de ces éléments disqualifie tout homme pour le ciel. Un homme innocent de tous les fruits de la chair ci-dessus est en pleine conformité avec les exigences rigides du salut énoncées dans les Écritures. Soyez parfait comme le Père est parfait, Matthieu 5, 48. Soyez juste comme il est juste, 1 Jean 3, 7, 10. Soyez miséricordieux comme il est miséricordieux, Luc 6, 36. Devenez pur comme il est pur, 1 Jean 3, 3. Comme celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saint dans toute votre conduite, 1 Pierre 1, 15. Marchez comme lui a marché. 1. Tout homme sera jugé par Dieu selon cette loi intérieure. Aucun homme n'en est dispensé pour quelque raison que ce soit, et elle n'a jamais été abrogée ni annulée. Pour être libéré de cette loi intérieure, selon laquelle tous les hommes seront jugés, vous devez vous soumettre à ce que Dieu condamne les péchés dans votre chair, par des commandements adaptés aux circonstances de votre vie et que vous entendez en l'attendant. Ces commandements sont établis comme des lois supplémentaires dans votre cœur, dans lesquelles se trouvent toutes les lois que vous devez obéir et continuer d'obéir jusqu'à ce que vous soyez complètement crucifié, pour ensuite marcher dans l'amour et la liberté sans loi. La loi a autorité sur un homme aussi longtemps qu'il vit, Rome 7, 1. La loi est notre pédagogue jusqu'à ce que nous ayons crucifié notre nature pécheresse sur la croix intérieure du renoncement à soi. Si vous êtes conduit par l'Esprit, vous n'êtes plus sous la loi, Galates 5, 18, ceux qui sont conduits par l'Esprit sont fils de Dieu. Rome 8, 14. De la parole du Seigneur au-dedans, il n'y a pas de loi quand tu es sous le contrôle total de l'Esprit, tu marches dans l'amour en obéissant selon l'impulsion, tu ne marches pas dans une chair restreinte. Voir jusqu'à ce que vos paroles et vos actes soient suscités par Dieu, vous devez obéir au noyau moral de la loi pour davantage sur ce sujet. Et quel rapport tout cela a-t-il avec des femmes qui parlent? Elles ont l'évangile éternel à prêcher, et sur elles la promesse du Seigneur s'accomplit, et son esprit est répandu sur elles selon sa parole, Actes 2, 16, 18. Et si l'apôtre avait voulu faire taire celles sur qui l'esprit du Seigneur a été répandu, pourquoi a-t-il dit juste avant? Si quelque chose est révélé à un autre qui est assis, que le premier se taise, et vous pouvez tous prophétiser l'un après l'autre. Ici, il ne dit pas que ces femmes ne doivent pas prophétiser lorsqu'elles ont la révélation et que l'Esprit de Dieu a été répandu sur elles, mais cela s'appliquait à leurs femmes qui étaient encore sous la loi, et encore dans la transgression et donc dans la rivalité, la confusion et la malice. Car s'il avait arrêté toutes les femmes de prier ou de prophétiser, pourquoi dit-il « Tout homme qui prie ou prophétise, la tête couverte déshonore sa tête ». Mais toute femme qui prie ou prophétise, la tête non couverte déshonore sa tête. Jugez en vous-même, est-il convenable qu'une femme prie Dieu la tête non couverte? Néanmoins, dans le Seigneur, l'homme n'est pas sans la femme, ni la femme sans l'homme. 1 Cor 11, 3, 4, 11, 11, 13. De même, cet autre passage en intime 2, 9, 13, où il exhorte à faire partout des prières et des supplications, en levant des mains saintes sans colère ni doute, il dit de même que les femmes se parent d'un vêtement convenable et modéré, non extravagant, ostentatoire ou tapageur, avec pudeur et sobriété, non avec des tresses, ni de l'or, ni des perles, ni des habits coûteux. Il dit que les femmes apprennent dans le silence, en toute soumission. Et je ne permets pas à la femme d'enseigner ni de prendre autorité sur l'homme, mais qu'elle demeure dans le silence. Car Adam a été formé le premier, ensuite Ève, et Adam n'a pas été trompé, mais la femme, ayant été trompée, est tombée dans la transgression. Et ici l'apôtre parle particulièrement d'une femme par rapport à son mari, pour qu'elle lui soit soumise, et qu'elle n'enseigne pas ni n'usurpe d'autorité sur lui, c'est pourquoi il mentionne Adam et Ève. Mais quand bien même on pousserait cela à l'extrême, comme le voudraient les opposants à la parole des femmes, c'est-à-dire qu'elles ne devraient pas prêcher ni parler dans l'Église, ce dont il n'est rien dit ici, l'apôtre parle néanmoins à des femmes à qui il enseigne comment se vêtir, quoi porter et quoi ne pas porter, à celles qui n'en étaient pas encore venues à porter un vêtement modeste, et qui n'en étaient pas encore venues à la pudeur et à la sobriété, mais il les exhortait à renoncer aux cheveux tressés, à l'or, aux perles et aux habits coûteux, et de tête. Et quel rapport tout cela a-t-il avec celle sur qui la puissance et l'Esprit du Seigneur Jésus ont été répandus, et à qui le message du Seigneur Jésus a été donné? Ne doivent-elles pas dire la parole du Seigneur à cause de ces femmes indécentes et irrévérencieuses dont l'apôtre parle, et à qui il parle, dans ces deux passages? Comme les hommes de cette génération sont aveuglés, eux qui produisent ces textes, pervertissent les paroles des apôtres et corrompent leur intention en parlant, par ces passages, ils s'efforcent d'arrêter le message et la parole du Seigneur Dieu dans les femmes, en les condamnant et en les méprisant. Si l'apôtre avait voulu arrêter la parole des femmes et ne les avait pas admises, pourquoi a-t-il prié ses vrais compagnons de joug d'aider ces femmes qui avaient travaillé avec lui à l'Évangile, Phil 4:3? Et pourquoi les apôtres persévéraient-ils unanimement dans la prière et la supplication avec les femmes, et Marie la mère de Jésus, et avec ses frères, Actes 1, 14, s'ils ne les avaient pas admises, et s'ils n'avaient pas eu union et communion avec l'Esprit de Dieu partout où ils se révélaient, chez les femmes comme chez les autres? Mais toute cette opposition et ces contestations contre la parole des femmes sont montées de l'abîme, et de l'Esprit des ténèbres, qui a parlé pendant tant de centaines d'années, dans cette nuit d'apostasie, depuis que les révélations ont cessé et ont été cachées. Ainsi cet esprit a limité et lié toute chose dans son lien et son enceinte, et ainsi il n'aurait permis à personne de parler, sinon à ceux que cet esprit de ténèbres approuvait, homme ou femme. C'est ainsi qu'a été la misère de ces derniers âges, au temps du règne de la bête que j'en vis lorsqu'il se tenait sur le sable de la mer, montant de la mer et de la terre, ayant 7 têtes et 10 cornes, rêve 13. Dans cette grande ville de Babylone, qui est la femme assise depuis si longtemps sur la bête écarlate, pleine de noms de blasphème, ayant 7 têtes et 10 cornes. Et cette femme était vêtue de pourpre et d'écarlate, parée d'or, de pierres précieuses et de perles, tenant dans sa main une coupe d'or pleine d'abomination et des souillures de sa fornication, et les habitants de la terre ont été enivrés du vin de sa fornication, et le monde entier a suivi la bête dans l'étonnement et l'admiration, et a adoré le dragon qui donna la puissance à la bête, et cette femme a été ivre du sang des saints et du sang des martyrs de Jésus. Voilà la femme qui a parlé et usurpé l'autorité pendant de nombreuses centaines d'années. Que les temps et les âges passés témoignent combien ont été assassinés et mis à mort, en des siècles et des générations passées, chaque religion et profession, comme on l'a appelé, tuant et assassinant les uns les autres, ceux qui ne voulaient pas se joindre les uns aux autres. Ainsi l'Esprit de vérité et la puissance du Seigneur Jésus-Christ ont été entièrement perdus parmi ceux qui ont fait cela. Cette mère des prostituées s'est assise comme une reine et a dit qu'elle ne verrait aucun chagrin. Mais bien que ses jours aient été longs, même de nombreuses centaines d'années, car il fut donné à la bête de continuer 42 mois, de faire la guerre aux saints et de les vaincre, tous les habitants de la terre l'adorent, ce dont le nom n'est pas écrit dans le livre de vie de l'agneau immolé dès la fondation du monde. Mais béni soit le Seigneur, son temps est fini, lui qui dura plus de 1200 ans, les ténèbres sont passées et la nuit de l'apostasie touche à sa fin, et la vraie lumière brille maintenant, la lumière du matin, l'étoile brillante du matin, la racine et la postérité de David. Il est ressuscité, gloire au plus haut à jamais, et la joie du matin est venue et l'épouse, la femme de l'agneau se prépare comme une épouse qui se pare pour son mari, et il lui est accordé qu'elle soit vêtue de fin lin pur et éclatant. Et c'est cette femme libre dont tous les enfants de la promesse sont nés, non les enfants de la servante, qui est Agar, qui enfante pour la rivalité et la servitude, et qui correspond à Jérusalem, qui est dans la servitude avec ses enfants, mais c'est la Jérusalem qui est libre, qui est la mère de nous tous. Et ainsi cette servante et ses enfants, nés selon la chair, ont persécuté ceux qui sont nés selon l'esprit jusqu'à présent. Mais maintenant la servante et sa descendance doivent être chassées, elles qui ont été si longtemps maintenues dans la servitude, l'esclavage est sous des limites. Cette servante et sa progéniture doivent être chassées, et notre ville sainte, la nouvelle Jérusalem, descend du ciel, et sa lumière brillera sur toute la terre comme du jaspe, clair comme du cristal, apportant liberté et délivrance, et une rédemption parfaite à toute sa descendance. Et c'est cette femme et cette image du Dieu éternel que Dieu a reconnue, reconnaît et reconnaîtra à jamais. On pourrait ajouter davantage à ce sujet, tant dans l'Ancien Testament que dans le Nouveau, où il est évident que Dieu n'a fait aucune différence, mais a donné son bon esprit, comme il lui a plu tant à l'homme qu'à la femme, comme Déborah, Hulda, Sarah. Le Seigneur appelle par son prophète Ésaïe, « Écoutez-moi, vous qui poursuivez la justice, vous qui cherchez l'Éternel. Regardez au rocher d'où vous avez été taillé et à la cavité de la carrière d'où vous avez été tiré. Regardez Abraham, votre père, et Sarah qui vous enfantait car l'Éternel consolera Sion. » Isa 51:1-3. Anne la prophétesse qui était veuve, âgée d'environ 84 ans, ne quittait pas le temple et servait Dieu dans les jeûnes et les prières nuit et jour. Survenant à cet instant, quand le vieux Siméon prit l'enfant Jésus dans ses bras, elle rendit aussi grâce au Seigneur et parla de lui à tous ceux qui attendaient la rédemption à Jérusalem, Luc 2:36-38. et Philippe l'évangéliste dans la maison duquel l'apôtre Paul entra, qui était l'un des sept, Actes 6, 3-5, avec quatre filles vierges qui prophétisaient, Actes 21, 8-9. Que cela serve donc à fermer la bouche à cet esprit d'opposition qui voudrait limiter la puissance et l'esprit du Seigneur Jésus, dont l'esprit est répandu sur toute chair, fit les filles maintenant dans sa résurrection, et puisque le Seigneur Dieu dans la création lorsqu'il fit l'homme à son image, les fit mâles et femelles, et puisque Christ Jésus, comme l'a dit l'apôtre, est né d'une femme, et que la puissance du Très-Haut la couvrit de son ombre, et que le Saint-Esprit vint sur elle, et que le Saint-Enfant qui naquit d'elle fut appelé fils de Dieu. Lorsqu'il était sur la terre, il manifesta son amour, sa volonté et sa pensée tant à la femme de Samarie qu'Aman, à Marie sa sœur, et à plusieurs autres comme cela a été montré, et après sa résurrection aussi, il se manifesta et les premières avant même de monter vers son Père. Or Jésus étant ressuscité le premier jour de la semaine, apparut d'abord à Marie-Madeleine, Marc 16-9. Ainsi le Seigneur Jésus a manifesté sa personne et sa puissance sans faire acception de personne, et que toutes les bouches soient donc fermées, celles qui voudraient le limiter, lui dont la puissance et l'esprit sont infinis, et qui les répand sur toute chair. Et voilà pour répondre à ces deux passages, qui ont été rendus un si grand sujet de chute, et dont les ministres des ténèbres ont fait une montagne, mais le Seigneur enlève tout cela et l'autre du chemin. Margaret Fell en l'année 1666, mise à jour à partir de son livre, A Brief Collection of Remarkable Passages, Londres 1710 pp. 331-344. Nous avons sur ce site d'autres extraits des lettres de Margaret Fell, cliquez ici pour y accéder. Un ajout supplémentaire, en réponse à l'objection concernant le silence des femmes dans l'Église, par Margaret Fell car il ne leur est pas permis de parler, mais d'être sous l'obéissance, comme le dit aussi la loi. Si elles veulent apprendre quelque chose, qu'elles interrogent leur mari à la maison, car il est honteux pour une femme de parler dans l'Église. Or ceci, comme Paul l'écrit en 1 Cor 14:35, correspond à 1 Tim 2:11, que la femme apprenne dans le silence en toute soumission. À quoi je réponds, si vous appliquez cela à toutes les femmes selon la chair, alors il y avait beaucoup de femmes veuves qui n'avaient pas de mari dont apprendre, et beaucoup étaient vierges qui n'avaient pas de mari, et Philippe avait quatre filles qui étaient prophétesses, celles-là seraient méprisées, ce que l'apôtre n'a pas interdit. Si cela les écrits de Paul concernaient toutes les femmes, en sorte qu'aucune femme ne puisse parler, alors Paul se serait contredit, mais il s'agissait de telles femmes que l'apôtre mentionne dans Timothée, qui par des désirs charnels devinrent déréglées contre Christ, et s'occupèrent d'affaires étrangères, et furent des bavardes commères, et se rebellèrent contre Christ. Car Christ dans l'homme et dans la femme est un, et il est l'époux. Et son épouse est l'Église, et Dieu a dit que ses filles prophétiseraient tout autant que ses filles. Et là où il a répandu son esprit sur elles, elles doivent prophétiser, bien que des prêtres aveugles disent le contraire et n'autorisent pas les femmes saintes à parler. Et tandis qu'il est dit, « Je ne permets pas à la femme de parler, comme le dit la loi, mais là où les femmes sont conduites par l'Esprit de Dieu, elles ne sont pas sous la loi, car Christ dans l'homme et dans la femme est un, et là où il se manifeste dans l'homme et dans la femme, il peut parler, car il est la fin de la loi pour la justice de tous ceux qui croient. » Ainsi ici, vous devez distinguer quel genre de femme il est défendu de parler. Ce sont celles qui étaient sous la loi, qui n'étaient pas venues à Christ, ni à l'esprit de prophétie, puisque Hulda, Myriam et Anne furent des prophétesses, auxquelles il ne fut pas interdit de parler au temps de la loi, car elles prophétisèrent tout au temps de la loi. Comme vous pouvez lire en 2 Rois 22, ce qu'Hulda dit aux prêtres et aux envoyés qui lui furent dépêchés par le roi, « Allez, dit-elle, dire à l'homme qui vous a envoyé vers moi, ainsi parle le Seigneur. Parce qu'ils m'ont abandonné, et ont brûlé de l'encens à d'autres dieux, m'irritant par toutes les œuvres de leurs mains, ma colère s'embrasera contre ce lieu et ne s'éteindra pas. Au roi de Juda, qui vous a envoyé vers moi pour consulter le Seigneur, dites-lui ceci. Ainsi parle le Seigneur, Dieu d'Israël, au sujet des paroles que tu as entendues. Parce que ton cœur a été touché et que tu t'es humilié devant le Seigneur quand tu as entendu ce que j'ai dit contre ce lieu et contre ses habitants, qu'il deviendrait une désolation et une malédiction. Voici, je te rassemblerai auprès de tes pères, tu seras emporté dans ton tombeau en paix, et tes yeux ne verront pas le malheur que je vais faire venir sur ce. Voyons maintenant si l'un de vous, prêtre aveugle, peut parler de cette manière, et voyons si ce n'est pas un meilleur sermon que tout ce que vous pouvez produire, vous qui êtes contre la parole des femmes. Et Ésaïe, qui alla vers la prophétesse, ne lui interdit pas de parler ni de prophétiser, Ésaïe 8:3. N'a-t-il pas été prophétisé dans Joël 2 que des servantes prophétiseraient? Les servantes, ne sont-elles pas des femmes? Considérez cela, vous qui êtes contre la parole des femmes, et voyez dans les actes comment l'Esprit du Seigneur fut répandu sur des filles autant que sur des filles. Au temps de l'Évangile, quand Marie vint saluer Élisabeth dans la région montagneuse, dans la ville de Judée, et quand Élisabeth entendit la salutation de Marie, l'enfant tressaillit dans son sein, et Élisabeth fut remplie du Saint-Esprit, et Élisabeth parla à haute voix, « Tu es bénie entre les femmes, et béni est le fruit de ton sein. Et comment m'est-il accordé que la mère de mon Seigneur vienne vers moi? Car voici, dès que la voix de ta salutation a frappé mes oreilles, l'enfant dans mon sein a tressailli de joie. Bienheureuse celle qui a cru qu'il y aurait accomplissement de ce qui lui a été dit de la part du Seigneur. Et cela fut le sermon d'Élisabeth concernant Christ, qui aujourd'hui est consigné. Puis Marie dit, « Mon âme magnifie le Seigneur, et mon esprit se réjouit en Dieu, mon Sauveur, car il a regardé l'humiliation de sa servante, car voici, désormais toutes les générations me diront bienheureuse, car celui qui est puissant a fait pour moi de grandes choses, et son nom est saint. Et sa miséricorde s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Il a déployé la force de son bras, il a dispersé ceux qui ont dans le cœur des pensées orgueilleuses, il a renversé les puissants de leur trône, et il a élevé les humbles. Il a rassasié de bien les affamés, et il a renvoyé les riches les mains vides. Il a secouru Israël, son serviteur, se souvenant de sa miséricorde, comme il l'avait dit à nos pères, à Abraham et à sa descendance pour toujours. N'êtes-vous pas ici redevable à la femme de son sermon, pour en reprendre les paroles et les mettre dans votre prière commune, et pourtant vous interdisez la parole des femmes ? Vous pouvez maintenant voir comment ces deux femmes ont prophétisé au sujet de Christ, et ont prêché mieux que tous les prêtres aveugles de cette époque, et mieux encore que ceux de notre époque, qui sont redevables aux femmes en faisant usage de leurs paroles. Voyez dans le livre de Ruth comment les femmes la bénirent à la porte de la ville, de la lignée de laquelle vint Christ, que le Seigneur rende la femme entrée dans ta maison semblable à Rachel et à Léa, qui bâtirent la maison d'Israël, puisses-tu prospérer en Éphrata et d'être célèbre à Bethléem. Et que ta maison soit comme la maison de Pharès, que Tamar enfanta à Juda, de la postérité que le Seigneur te donnera de cette jeune femme. Béni soit le Seigneur, qui ne t'a pas laissé aujourd'hui sans un proche parent, que son nom soit célèbre en Israël. Voyez aussi, au premier chapitre de Samuel, comment Anne pria et parla dans le temple du Seigneur. « Ô Seigneur des armées, si tu veux bien regarder l'affliction de ta servante, et te souvenir de moi, et ne pas oublier ta servante, mais donner à ta servante un enfant mâle, alors je le donnerai à l'Éternel tous les jours de sa vie. » Et lisez au second chapitre de Samuel comment elle se réjouit en Dieu et dit, « Mon cœur se réjouit en l'Éternel, ma force est élevée en l'Éternel, et ma bouche s'ouvre contre mes ennemis, car je me réjouis de ton salut. Nul n'est saint comme l'Éternel, car nul n'est en dehors de toi, il n'y a point de rocher comme notre Dieu. Ne parlez plus avec tant d'orgueil, que l'arrogance ne sorte pas de votre bouche. Car l'Éternel est un Dieu de connaissance, et par lui les actions sont pesées. Les arcs des hommes puissants sont brisés, et ceux qui chancelaient sont ceints de force. Ceux qui étaient rassasiés se louent pour du pain, et ceux qui avaient faim, leur faim a cessé, de sorte que la stérile a enfanté 7 fois, et celle qui avait beaucoup d'enfants est devenue languissante. L'Éternel fait mourir et fait vivre, il fait descendre au séjour des morts et il en fait remonter. L'Éternel appauvrit et enrichit, il abaisse et il élève. Il relève le pauvre de la poussière, il tire le mendiant du fumier, pour les faire asseoir parmi les princes et leur faire hériter le trône de gloire, car les colonnes de la terre sont à l'Éternel, et c'est sur elles qu'il a posé le monde. Il gardera les pieds de ses saints, et les méchants se tairont dans les ténèbres, car ce n'est point par la force que l'homme l'emportera. Les adversaires de l'Éternel seront brisés, du ciel il tonnera sur eux. L'Éternel jugera les extrémités de la terre, il donnera de la force à son roi, et il élèvera la puissance de son oint. Ainsi, vous pouvez voir ce qu'une femme a dit, quand le vieux prêtre Élie pensait qu'elle était ivre, et voyez si l'un de vous, prêtre aveugle, qui parlait contre la parole des femmes, peut prêcher de cette manière, vous qui ne pouvez produire un tel sermon que cette femme, et pourtant vous faites commerce des paroles de cette femme et d'autres femmes. La reine de Saba n'a-t-elle pas parlé, elle qui vint vers Salomon, reçut la loi de Dieu, la prêcha dans son propre royaume, et bénit le Seigneur Dieu qui aimait Salomon et l'avait établi sur le trône d'Israël, parce que le Seigneur aimait Israël pour toujours et fit que le roi exerça jugement et justice, et tel fut le langage de la reine de Saba. Voyez quelles expressions glorieuses la reine Est employa pour consoler le peuple de Dieu, qui était l'Église de Dieu, comme vous pouvez le lire dans le livre d'Est, ce qui suscita joie et allégresse de cœur parmi tous les Juifs, qui priaient et adoraient le Seigneur en tout lieu. Elle risqua sa vie contre l'ordre du roi, alla parler au roi dans la sagesse et la crainte du Seigneur, et par ce moyen elle sauva la vie du peuple de Dieu, et le juste Mardoché ne lui interdit pas de parler, mais dit que si elle manquait de parler au roi, elle est la messe. Et en ceci, vous, prêtres aveugles, vous êtes contraires au juste Mardoché. De même, vous pouvez lire comment Judas Astérisque parla, quelles actions nobles elle accomplit, et comment elle parla aux anciens d'Israël en disant « Chers frères, puisque vous êtes les honorables et les anciens du peuple de Dieu, rappelez-vous comment nos pères autrefois furent tentés afin d'être éprouvés pour voir s'ils adoraient Dieu comme il faut. Ils doivent aussi se souvenir comment notre père Abraham, éprouvé par de multiples tribulations, fut trouvé ami de Dieu, ainsi en fut-il d'Isaac, de Jacob, de Moïse et de tous, ils plurent à Dieu. Lisez aussi sa prière dans le livre de Judith, et comment les anciens la louèrent en disant, « Tout ce que tu dis est vrai, et nul ne peut reprendre tes paroles, prie donc pour nous, car tu es une femme sainte et tu crains Dieu. » Ainsi ces anciens d'Israël ne lui interdirent pas de parler, comme vous le faites, prêtre aveugle, et pourtant vous ferez commerce des paroles des femmes pour en tirer de l'argent, et vous prendrez des textes, et prêcherez des sermons sur des paroles de femmes, et vous criez toujours, « Les femmes ne doivent pas parler, les femmes doivent se taire. » Ainsi vous êtes loin des dispositions des anciens d'Israël, qui louèrent Dieu pour la parole d'une femme. Mais Jézabel, et la femme la fausse église, la grande prostituée et les femmes bavardes et ignorantes, et celles qui se mêlent de tout, auxquelles il est interdit de prêcher, qui depuis longtemps ont parlé et colporté des propos, qui sont interdites de parole par la véritable Église dont Christ est le chef, de telles femmes étaient en transgression sous la loi, et sont appelées une femme dans l'Apocalypse. Astérisque le livre de Judith figurait dans la version originale King James de la Bible, dont Margaret Fox s'est servie pour rédiger ce texte. Dans une mesure de réduction des coûts, les États-Unis nouvellement indépendants ont commencé à imprimer leur propre Bible, supprimant ce livre ainsi que d'autres, le groupe connu sous le nom d'Apocryphe. Plus tard, la British and Foreign Bible Society, en 1826, retira ses subventions pour l'impression des apocryphes, et ainsi ils disparurent des Bibles protestantes, ne demeurant que dans les Bibles catholiques. Voyez encore comment la femme sage cria à Joab par-dessus le mur et sauva la ville d'Abel, comme vous pouvez le lire en 2 Sam 20. Comment dans sa sagesse, elle parla à Joab en disant, « Je suis de ceux qui sont pacifiques et fidèles en Israël. Tu cherches à détruire une ville qui est une mère en Israël. Pourquoi veux-tu engloutir l'héritage de l'Éternel ? » Alors la femme alla vers tout le peuple dans sa sagesse. Et ils tranchèrent la tête de Sheba, qui avait levé la main contre le roi, contre David, loin du Seigneur. Ainsi Joab sonna de la trompette, et l'armée se retira de la ville, chacun rentrant chez soi. Et cette délivrance eut lieu par le moyen de la parole d'une femme. Mais les bavardes et celles qui se mêlent de tout sont interdites de prêcher par la vraie femme, dont Christ est l'époux, pour la femme comme pour l'homme, tous étant compris comme l'Église. Ainsi dans cette véritable Église, fils et filles prophétisent, les femmes travaillent dans l'Évangile, mais l'apôtre ne permet pas aux bavardes, à celles qui se mêlent de tout, et à celles qui usurpent l'autorité sur l'homme, qui ne voudraient pas que Christ règne, ni ne parle, ni dans l'homme ni dans la femme, la loi ne permet pas à de telles personnes de parler, celles-là doivent apprendre de leur mari. Mais quel mari les veuves ont-elles donc à prendre, sinon Christ ? Christ n'était-il pas l'époux des 4 filles vierges de Philippe ? Ceux qui ont appris de leur mari ne peuvent-ils pas alors parler ? Mais Jézabel, et les bavardes, et la prostituée, qui nient la révélation et la prophétie, ne sont pas permises, elles qui ne veulent pas apprendre de Christ. Ceux qui sont hors de l'esprit, et de la puissance de Christ dans lesquels étaient les prophètes, ceux qui sont dans la transgression, sont ignorants des Écritures. De tels étrangers au même esprit que les apôtres sont contre la parole des femmes, et celle des hommes aussi, qui prêchent ce qu'ils ont reçu du Seigneur Dieu, mais ce qu'ils ont prêché, et prêchent, viendra sur toutes vos têtes, oui, sur la tête de la fausse église, le pape. Car le pape est la tête de la fausse église, et la fausse église est l'épouse du pape. Ainsi lui et ceux qui sont de lui et viennent de lui sont contre la parole des femmes dans la véritable église, alors que lui et la fausse église sont tous deux appelés femmes, en Apoc 17. Et ainsi ils sont dans la transgression, eux qui voudraient usurper l'autorité sur l'homme Christ Jésus, et sur son épouse aussi, et ne voudraient pas qu'il règne, mais le jugement de la grande prostituée est venu. Mais Christ est la tête de l'Église, la vraie femme, qui est son épouse, dans laquelle ses filles prophétisent, elles qui sont au-dessus du pape et de son épouse et au-dessus d'eux. Ici Christ est la tête de l'homme et de la femme, qui peuvent parler, et l'Église est appelée un sacerdoce royal, ainsi la femme doit offrir autant que l'homme. Apoc 22, 17. L'Esprit dit « Viens » et l'Épouse dit « Viens » et l'Épouse n'est-elle pas l'Église ? L'Église ne consiste-t-elle que d'hommes ? Vous qui niez la parole des femmes, répondez, ne consiste-t-elle pas de femmes autant que d'hommes ? L'Épouse n'est-elle pas comparée à l'Église tout entière ? L'Épouse ne dit-elle pas « Viens » La femme ne parle-t-elle donc pas à l'Époux ? Christ Jésus l'amène, la fausse Église ne cherche-t-elle pas à fermer la bouche de l'Épouse ? Mais ce n'est pas possible, car l'Épouse est avec son Épouse et il lui ouvre la bouche. Christ Jésus, qui va de victoire en victoire pour vaincre, qui tue et frappe avec l'épée, qui est la parole de sa bouche, l'agneau et les saints auront la victoire, les vrais porte-paroles, hommes et femmes, sur le faux porte-parole. Margaret Fell, 1666, mise à jour à partir de son livre, à brève collection of remarquables passages, Londres, 1710 pp. 344-365. En 1669, 11 ans après la mort de son mari, le juge Fell, Margaret Fell épousa George Fox et devint Margaret Fox. Leur mariage eut lieu sur l'ordre du Seigneur Jésus. Elle s'était déjà établie comme la mère de l'Église, tandis que Fox était reconnu comme le père et le fondateur. Nous avons sur ce site d'autres extraits des lettres de Margaret Fell. Cliquez ici pour y accéder. Dans l'accord et l'unité de l'esprit, est incluse ci-dessous une lettre de George Fox, écrite au duc de Holstein, qui avait banni les Quakers pour avoir permis aux femmes de parler dans leurs assemblées, au duc de Holstein, que je prie, dans l'amour de Dieu, de lire ceci qui lui est envoyé avec amour. Je comprends qu'autrefois, par quelques personnes mal intentionnées, il vous fut rapporté, lorsque Elizabeth Hendrick vint à Frederickstadt visiter le peuple appelé Quakers, que c'était un scandale pour la religion chrétienne qu'on laissât une femme prêcher dans une assemblée publique religieusement réunie. Sur quoi vous donnâtes un ordre aux autorités de Frederickstadt de faire partir immédiatement ces gens de cet endroit ou de les envoyer ailleurs. Mais lesdites autorités, étant arméniennes, et elles ou leurs pères étant venus y vivre en tant que peuple persécuté en Hollande il n'y a guère plus d'une soixantaine d'années, répondirent au duc qu'elles n'étaient pas disposées à persécuter autrui pour raison de conscience, ayant considéré, dans leur propre cas, la persécution pour ce motif comme antichrétienne. Mais après cela, le peuple de Dieu, appelé par dérision Quakers, vous écrivit de Frederickstadt, et depuis ce temps, ils ont eu leur liberté, et leurs réunions ont été paisibles, pour servir et adorer Dieu depuis presque 20 ans à Frederickstadt et aux alentours, librement et sans molestation, liberté qu'ils ont reconnue comme une grande faveur et bonté de votre part. Et maintenant, ô duc, vous qui professez le christianisme au nom grand et puissant de Christ Jésus, roi des rois et seigneur des seigneurs, et vous qui vous appuyez sur les saintes écritures de vérité de l'Ancien et du Nouveau Testament, n'employez-vous pas dans votre service et votre culte de nombreuses paroles de femmes tirées de l'Ancien et du Nouveau Testament. L'apôtre a dit que vos femmes se taisent dans les églises et qu'il ne leur permettait pas de parler, mais qu'elles sont commandées d'être sous l'obéissance, comme le dit aussi la loi, et si elles veulent apprendre quelque chose, qu'elles interrogent leur mari à la maison, car il est honteux aux femmes de parler dans l'église. 1 Cor 14:34-35. Et les femmes doivent apprendre dans le silence, et il ne leur est pas permis d'enseigner ni d'usurper l'autorité sur l'homme, mais d'être dans le silence. 1 Tim 2:11-12. Ici, le duc peut voir quel genre de femme devait être dans le silence et la soumission, celle que la loi commande de se taire et de ne pas usurper l'autorité sur l'homme, ni de parler dans l'église, c'étaient des femmes indisciplinées. Dans le même chapitre, il leur commande de ne pas se parer de tresses, d'or, de perles ou d'habits somptueux. Ces choses furent interdites par l'apôtre, et les femmes qui portent de telles choses doivent apprendre dans le silence et être soumises, et ne pas usurper l'autorité sur les hommes, car il est honteux que de telles femmes parlent dans l'église. Mais ces femmes mêmes qui portent or et argent, perles et vêtements voyants, ou tenues coûteuses, et qui tressent et ornent leurs cheveux, ne parlent-elles pas dans votre église quand vos prêtres les font chanter des psaumes? Ne parlent-elles pas lorsqu'elles chantent des psaumes? Considérez cela, ô duc. Et pourtant vous dites, vos femmes doivent se taire dans l'église, et ne doivent pas parler dans l'église, mais quand elles chantent des psaumes dans vos églises, sont-elles silencieuses? Bien que l'apôtre interdit à de telles femmes, mentionnées plus haut, de parler dans l'église, ailleurs il encourage les bonnes ou saintes femmes à être enseignantes de ce qui est bon. Tite 2, 3-4. L'apôtre a aussi dit, « Je te prie aussi, fidèle compagnon de joug, de venir en aide à ces femmes qui ont travaillé avec moi pour l'Évangile, avec Clément et d'autres de mes compagnons d'œuvre dont les noms sont dans le livre de vie. » Ici, il reconnaît ces femmes saintes et les encourage, elles qui ont travaillé avec lui pour l'Évangile, et ne les a pas interdites. Phil 4, 2, 3. Il recommande pareillement Phébé à l'Église des Romains, l'appelle une servante de l'Église de Sancré, lui confie son épître aux Romains depuis Corinthe, et demande à l'Église de Rome de la recevoir dans le Seigneur, comme il convient à des saints, et de l'assister dans toute affaire où elle aurait besoin de vous, car elle a été bienfaitrice de beaucoup et de moi-même aussi. Et il dit, « Saluez Priscille et Aquila, mes aides en Christ Jésus, qui pour ma vie ont exposé leur propre vie, à eux non seulement je rends grâce, mais aussi toutes les églises et nations. » Ici, le duc peut voir que ce sont de bonnes femmes saintes, auxquelles l'apôtre n'a pas interdit de parler, Rome 16 1-4, mais qu'il les a recommandées, et Priscille et Aquila expliquèrent et exposèrent plus exactement à Apollo la voix de Dieu, Actes 18-26. Ainsi Priscille fut instructrice autant qu'Aquila, et l'apôtre n'interdit pas ces femmes saintes. Il n'interdit pas non plus aux quatre filles de Philippe, qui étaient vierges, de prophétiser, Actes 21, 8-9. Les femmes pouvaient prier ou prophétiser dans l'Église, 1 Cor 11-5. Les apôtres montrèrent aux Juifs l'accomplissement de la prophétie de Joël, que dans les derniers jours Dieu répandrait de son esprit sur toute chair, et que leurs fils et leurs filles, serviteurs et servantes, prophétiseraient par l'Esprit de Dieu. Ainsi l'apôtre encourage les filles et les servantes à prophétiser autant que les filles, et si elles prophétisent, elles doivent parler à l'Église ou au peuple, Joël 2:28, Actes 2:17. Myriam la prophétesse n'a-t-elle pas chanté au Seigneur, avec toutes les femmes avec elle, quand le Seigneur eut délivré les enfants d'Israël de Pharaon? Ne loua-t-elle pas le Seigneur, Et ne prophétisa-t-elle pas dans l'assemblée des enfants d'Israël? N'était-ce pas dans l'Église? Ex 15, 21. Moïse et Aaron ne lui interdirent pas de prophétiser ou de parler, mais Moïse dit, « Plus à Dieu que tout le peuple de l'Éternel fut prophète, et le peuple du Seigneur, ce sont les femmes autant que les hommes. » Déborah était juge et prophétesse, et ne vous servez-vous pas des paroles de Déborah et de Myriam dans votre service et votre culte? Voyez Juges 5, 31 pour le long discours ou chant de Déborah. Barak ne le lui interdit pas, ni aucun des prêtres juifs. N'a-t-elle pas prononcé ce discours ou chant dans l'assemblée ou l'église d'Israël? Dans le livre de Ruth, il y a de bons discours de ces bonnes femmes qui ne furent pas interdits. Anne pria au temple devant Élie, et le Seigneur répondit à sa prière. Voyez quel discours Anne fait, et quelle louange à Dieu devant Élie le grand prêtre, qui ne le lui interdit pas. 1 Sam 2, 1-10. Josias, le roi, envoya son prêtre, avec plusieurs autres, demander conseil à Hulda la prophétesse qui habitait à Jérusalem dans le collège. 2 Rois 22, 14-15, 2 Chr 34, 22-23. Ici, le roi et ses prêtres ne méprisèrent pas le conseil de cette prophétesse, et elle prophétisa à l'assemblée d'Israël, comme on peut le voir dans ces chapitres. Dans Luc 1, 41-55, voyez quel discours pieux Élisée s'adressa à Marie, et quel grand discours pieux Marie prononça aussi. Marie dit que le Seigneur a regardé l'abaissement de sa servante, et ne vous servez-vous pas dans votre culte et votre service des paroles de Marie et d'Élisée, tirées de Luc 1, 41-55, dans vos églises, et pourtant vous interdisez aux femmes de parler dans vos églises, ne leur laissant que le silence. Et pourtant toutes sortes de femmes parlent dans vos églises quand elles chantent et disent Amen. Dans Luc 2, 36-38, il y avait Anne la prophétesse, une veuve, âgée d'environ 84 ans, qui ne quittait pas le temple, mais servait Dieu par des jeûnes et des prières nuit et jour. Ne confessa-t-elle pas Christ Jésus dans le temple? Ne rendit-elle pas grâce au Seigneur? Et ne parla-t-elle pas de Christ à tous ceux qui attendaient la rédemption à Jérusalem? Luc 2, 36-38. Ainsi, de telles femmes saintes ne furent pas interdites de parler dans l'Église, ni dans la loi ni dans l'Évangile. N'est-ce pas Marie de Magdala et d'autres femmes qui annoncèrent les premières la résurrection de Christ aux apôtres? Les femmes, en effet, à savoir Ève, furent les premières dans la transgression, ainsi ce furent des femmes qui, les premières, prêchèrent la résurrection de Christ Jésus, car Christ dit à Marie, « Va vers mes frères et dis-leur, je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. » Jean 20, 17. Et dans Luc 24, 8-12, c'était Marie de Magdala et Jeanne, et Marie mère de Jacques, et d'autres femmes qui étaient avec elle, qui dirent ces choses aux apôtres, que Christ était ressuscité d'entre les morts, et leurs paroles, ces paroles de femmes, leur parurent comme des contes, et ils ne les crurent pas. Certaines femmes de notre compagnie aussi, étant allées de grand matin au tombeau, nous ont étonnés, Luc 24-22, dirent-ils. Ainsi, on voit que la prédication de la résurrection de Christ par les femmes étonna les apôtres. Christ envoya ses femmes prêcher sa résurrection. Ainsi, il n'est pas honteux pour de telles femmes de prêcher Christ Jésus, et elles ne doivent pas se taire quand Christ les envoie. L'apôtre dit, « Toute langue rendra louange à Dieu, Romains 14, 11 et « Toute langue confessera que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. » Phil 2, 11 Ainsi, il est clair que les femmes doivent confesser Christ autant que les hommes si toute langue doit confesser. Et l'apôtre a dit, « Il n'y a ni homme ni femme, car vous êtes tous un en Christ Jésus. » Galates 3, 28. Et tandis qu'il est dit, les femmes doivent interroger leur mari à la maison, le duc sait très bien que les vierges n'ont pas de mari, ni les veuves, car Anne la prophétesse était veuve, et si Christ est l'époux, les hommes aussi bien que les femmes doivent lui demander conseil à la maison avant d'enseigner. Et supposez que l'épouse d'un musulman soit chrétienne, ou que l'épouse d'un papiste soit luthérienne ou calviniste, doivent-elles demander et apprendre de leur mari à la maison avant de confesser Christ Jésus dans l'assemblée du Seigneur? Leur conseil serait de se convertir et de devenir musulmane ou papiste. Je prie le duc de considérer ces choses, je le prie de prendre garde à la grâce et à la vérité de Dieu dans son cœur, qui viennent par Jésus-Christ, afin que par son esprit de grâce et de vérité, il en vienne à servir et adorer Dieu en esprit et en vérité, de sorte qu'il puisse servir le Dieu vivant et éternel qu'il a fait dans sa génération, et avoir sa paix en Christ, que le monde ne peut enlever. Et je désire aussi pour lui une bonne paix et prospérité dans ce monde, et son réconfort et bonheur éternel dans le monde qui est éternel. Amen. George Fox, Londres, le 26 jour du 8 mois, 1684 pour d'autres écrits sur le sujet de l'égalité des femmes, voir la lettre 320 de George Fox, extrait supplémentaire du journal de George Fox, nous rencontrâmes beaucoup d'opposition de la part de certains, qui s'étaient dressés contre les réunions de femmes, ce que le Seigneur me poussa à recommander aux amis, pour le bien de l'Église du Christ. Afin que des femmes fidèles, appelées à croire à la vérité, rendue participante de la même foi précieuse et héritière du même évangile éternel de vie et de salut que les hommes, puisse, de la même manière, entrer en possession et en pratique de l'ordre évangélique. Là, elles peuvent être des aides aux hommes dans la restauration, dans le service de la vérité et dans les affaires de l'Église, comme elles le sont extérieurement dans les choses civiles ou temporelles, afin que toute la famille de Dieu, femmes autant qu'hommes, puisse connaître, posséder, accomplir et assumer ses charges et services dans la maison de Dieu. Ainsi, les pauvres pourraient être mieux pris en charge, les plus jeunes instruits, informés et enseignés dans la voie de Dieu, les personnes dissolues et désordonnées reprises et averties dans la crainte du Seigneur, l'intégrité de ceux qui proposent le mariage examinée de plus près et plus strictement dans la sagesse de Dieu, et tous les membres du corps spirituel, l'Église, pourraient veiller les uns sur les autres et s'entraider dans l'amour. Après que ses opposants se furent engagés dans de nombreuses grêles et disputes, la puissance du Seigneur terrassa l'un des principaux d'entre eux, Colman, de sorte que son esprit s'abattit, et il en vint à prendre conscience du mal qu'il avait fait en s'opposant à la puissance céleste de Dieu. Il confessa son erreur devant les amis et écrivit ensuite un écrit de condamnation, dans lequel il déclara qu'il s'était obstinément opposé, bien que je l'ai souvent averti de prendre garde, jusqu'à ce que le feu du Seigneur brûle en lui, et qu'il ait vu l'ange du Seigneur, l'épée tirée dans sa main, prêt à le retrancher. Je lui dis que s'il ressentait le pardon du Seigneur, auquel il s'était opposé dans sa puissance et dans la possession qu'en avait son peuple, moi aussi je lui pardonnais librement. Puis il vint à moi et m'offrit son service pour m'aider à établir les réunions de femmes, mais je lui dis d'attendre jusqu'à ce qu'il ressente une rémission par la puissance du Seigneur, car le Seigneur n'avait pas besoin de lui dans l'état où il se trouvait. Nous eûmes là une réunion bénie, lorsque la réunion de femmes fut établie, dans la puissance bénie de Dieu, tous les héritiers de cette puissance prirent possession de l'Évangile et de son ordre. Mais Colman et d'autres, lorsqu'ils s'opposaient aux réunions de femmes, me demandèrent si ce n'était pas le commandement de Dieu qu'un homme doit dominer sur sa femme, et donc qu'il dominerait sur elle. Et l'apôtre n'a-t-il pas dit « Je ne permets pas à la femme d'enseigner, alors où lisons-nous qu'il y ait des femmes anciennes et des femmes disciples ?» Il dit aussi que c'était un abus envers les anciens que d'établir une réunion de femmes. Je dis à cela que lui et les autres n'étaient anciens que dans la chute, dominant sur leurs femmes dans la chute, mais qu'ils ne doivent pas dominer sur les veuves, les jeunes femmes non mariées et les femmes d'autres hommes. Je lui montrai que Dorcas était une disciple et que l'apôtre commandait que les femmes âgées soient enseignantes de bonnes choses envers les jeunes femmes. Bien que l'apôtre ait dit « Je ne permets pas à la femme d'enseigner ni d'usurper l'autorité sur l'homme, comme le dit aussi la loi, car Ève fut la première transgressrice, et que des enseignements tels qu'Ève enseignant son mari usurpait l'autorité sur l'homme, ce qui est interdit. Mais l'apôtre dit aussi que les filles et les servantes prophétiseraient ce qu'elles firent, tant au temps de la loi qu'à ceux de l'Évangile. L'homme et la femme avaient été aides l'un de l'autre avant de déchoir de l'image de Dieu en justice et en sainteté, et ainsi ils doivent redevenir aides l'un de l'autre par la restauration de l'homme et de la femme par Christ Jésus. Je dis que sa domination sur sa femme et son ancienneté étaient encore dans la chute, car il était encore dans la transgression, et qu'il n'était pas ancien dans l'image de Dieu, ni dans sa justice et sa sainteté, comme avant la transgression, mais qu'après que l'homme et la femme aient été restaurés à l'image de Dieu, ils redeviennent aides l'un de l'autre dans la domination sur tout ce que Dieu a fait. Le but de ce site web est de montrer comment être libéré du péché en bénéficiant de la puissance transformatrice de Dieu par la croix, qui conduit à l'union avec Dieu dans son royaume.